À vélo ou en vélo? Aller au coiffeur ou chez le coiffeur avec la sœur de A? À comment dire? Apporter ou emmener? Celle-là, je l'aime beaucoup. Que je l'aime, diraient certains. Dire ou ne pas dire? Comment tu parles, toi?
Pascal Paradou.
Pour tout savoir sur la langue française, son orthographe, sa morphologie, sa syntaxe ou sa grammaire, ses conjugaisons, les accords, le participe passé, je croyais naïvement que Grevis, Maurice ou Becherel, Louis-Nicolas, avaient tout dit, tout écrit. Erreur, grave erreur, car voilà que paraît la grande grammaire du français qui a mobilisé une cinquantaine de linguistes sous la direction de Anna Beyer et Daniel Godard, ce qui donne un ouvrage, tenez-vous bien, de plus de 2600 pages. Bonjour Anna Beyer.
Bonjour.
Vous êtes professeure à l'Université de Paris et vous avez donc conçu cette GGF avec Daniel Godard. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes directrice de recherche au CNRS. Alors, dans l'introduction à cet ouvrage, vous dites fièrement que le français ne disposait jusqu'à ce jour d'aucune grande grammaire, contrairement à l'anglais, l'espagnol ou l'italien. Donc, c'était quoi les manuels que l'on nous faisait lire à l'école? Anna Beyer.
Il y a différents livres de grammaire. Il y a effectivement des manuels pour écoliers, mais il y avait aussi des ouvrages savants et puis des ouvrages un peu plus synthétiques, comme Le bon usage de Maurice Grevis. Mais tous ont la particularité de se centrer sur le français écrit, et souvent presque exclusivement avec des exemples littéraires, et du français de France surtout, bon, parfois un peu de Belgique. Et nous, notre parti pris, c'était vraiment le français contemporain à partir de 1950, dans tous ses usages. Donc écrit, mais l'écriture, c'est pas seulement la littérature, c'est aussi les journaux, c'est aussi les textes de loi, c'est aussi Internet, avec cette explosion des écritures numériques. Et puis, bien sûr, c'est l'oral. Et donc, et puis, c'est le français de France et c'est le français hors de France. Donc, nous ne disposions pas d'ouvrages qui fassent le point sur la diversité des usages.
Donc c'est un ouvrage d'observation et de description.
Oui, absolument. C'est un point de vue descriptif comme on fait en science. Il n'y a pas de théorie, enfin, minimum de théorie de la langue derrière. Du point de vue théorique, c'est vraiment ce qu'on a tous appris en classe. Il y a des catégories grammaticales, le nom, le verbe, l'adjectif, etc. Et il y a des fonctions, le sujet, le complément. Bon, ça n'a rien de très novateur de ce côté-là. On a cherché simplement à définir ces notions de façon extrêmement précise, ce qui n'est pas toujours fait. Et aussi à bien distinguer les catégories, c'est un nom ou c'est un verbe, des fonctions. Parce que quelquefois, même assez souvent dans les grammaires, ce n'est pas bien distingué.
Donc là, vous décrivez le langage.
Oui.
Donc vous avez lu beaucoup, écouté beaucoup, trouvé les sources du langage.
Alors, on a dépouillé beaucoup de corpus, on appelle comme cela des bases de données qui ont été constituées par des universités, par des collègues linguistes. Donc, dès le début du magnétophone portatif, des collègues à Montréal, à Orléans, se sont mis à enregistrer les gens. Parce que pour pouvoir décrire l'oral, il suffit pas d'entendre, enfin, de noter une phrase entendue à la volée. Il faut vraiment avoir des grosses masses de données représentatives, savoir, voilà, cette construction est fréquente, celle-là, elle est bien attestée voilà, dans tel endroit de la francophonie. Donc, on a eu accès à ces grands corpus oraux. Il y en a eu donc des centaines d'heures enregistrées dans la région parisienne, mais aussi en Belgique, en Afrique, un peu partout. On a eu accès à toute la littérature, en fait, qui est numérisée. Donc, c'est une base qui s'appelle Frontexte. Et aussi à beaucoup d'archives, de journaux, de radios. Tout ça est transcrit. Enfin, on a aussi accès aux archives sonores. Donc, on avait tout un tout un matériel qui était très précieux et qui n'était pas vraiment exploité, enfin pas de façon systématique, dans un but global.
Donc c'est vraiment un travail de titan. Hein. D'ailleurs, vous n'avez pas été les deux toutes seules. Hein. Il y a quoi, une cinquantaine de linguistes avec vous et vous avez mobilisé une trentaine d'universités ou de laboratoires en France et dans l'espace francophone.
Exactement. Et le projet a duré aussi longtemps, plus près d'une quinzaine d'années, puisqu'il fallait d'abord se mettre d'accord sur un cadre commun, parce que si le français ne disposait pas de cette grande grammaire, c'était parce que les linguistes travaillaient de façon plus isolée, avec des terminologies différentes, des théories différentes. Donc il a fallu se mettre d'accord sur un cadre commun, assez simple, mais quand même assez robuste, pour pouvoir prendre en compte la variété des données. Et aussi pour rassembler toute cette masse de données que, pour un sujet donné, par exemple la négation ou les subordonnées relatives, on est à la fois des exemples écrits formels, des exemples écrits informels, donc plus décontractés, on va dire, ou Internet, et des exemples oraux et des exemples de France, des exemples hors de France. Donc à chaque fois, il y avait un cahier des charges qui était quand même assez précis et assez contraignant.
Avec toujours cette idée de la description et non pas de la norme.
Absolument.
Mais pourtant, la grammaire, c'est la norme. Moi, je me souviens de la petite règle en bois ou en métal si je faisais une faute de grammaire au collège.
Alors, ça, c'est horrible comme souvenir.
Alors, la grammaire, c'est la façon dont vous combinez des mots pour en faire des phrases qui ont un sens. Et le sens des phrases ne se réduit pas au sens des mots, parce qu'avec les mêmes mots, on peut faire des phrases qui ont des sens bien différents. Si c'est Paul regarde le chien ou le chien regarde Paul, rien que l'ordre des mots, ça décrit des situations bien différentes. Et c'est ça qui est essentiel, c'est quels sont les mots, quel type de mots on a dans la tête, puisque les mots n'ont pas tous le même sens et ils n'ont pas tous la même catégorie, et comment on construit des phrases. Et en ce sens, la grammaire de la langue se manifeste d'abord à l'oral, puisque l'enfant apprend la langue, apprend à faire des phrases, puisqu'on ne parle pas en liste de mots. On a bien des phrases à l'oral, et c'est bien avant d'apprendre à écrire. Donc la règle rigide dont vous parlez, en fait, c'est l'orthographe qui est une convention, qui est liée à l'apprentissage parfois douloureux de l'écrit, puisque l'orthographe française est assez difficile avec toutes ces lettres finales qu'on n'entend pas. Mais la grammaire elle-même, c'est, si vous voulez, plus ambitieux ou plus simple, je ne sais pas. Mais c'est les catégories des mots, les sens qu'ils ont, qui leur permettent de se combiner. Et quelles sont les combinaisons possibles, impossibles, équivalentes, non équivalentes, et quels sens elles ont.
Alors c'est donc une grande grammaire du français que vous nous avez concoctée. Mais est-ce que c'est une grammaire du français ou des français, Daniel Godard? Est-ce qu'un Congolais, un Français, un Tunisien ou un Québécois qui ne parle pas exactement le même français ont la même grammaire?
Ah, ça, c'est une vaste question. On ne peut pas dire qu'on la règle complètement, parce qu'il faudrait faire des études, des dissertations là-dessus. Mais ce qu'on veut dire, c'est que les gens qu'ils habitent au Québec ou en France, ils se comprennent. Alors, l'accent peut être différent, mais il ne faut pas confondre l'accent et la grammaire complètement. Donc, si vous parlez à quelqu'un de Marseille, c'est vrai qu'il ne parle pas exactement comme un Parisien. Mais néanmoins, là, on peut dire vraiment que c'est la même langue. Alors, il y a des variations. Mais ces variations, c'est-à-dire on ne parle pas partout de la même manière. Mais en principe, ça n'empêche pas la communication. Et on les apprend assez vite.
Et de toute façon, il y a des variations à l'intérieur même de la France, entre les régions, oui, entre les pays, entre les classes sociales même.
Alors, il y a au moins deux types de variations. La variation qu'on appelle de registre, des fois ça s'appelle niveau de langue, et là, chacun y a accès, suivant à qui vous parlez, suivant le contexte, vous allez dire vélo, bicyclette, bécane, et comme vous allez dire bagnole ou voiture, voilà, ça, chacun a accès à ces registres et en use, et suivant les situations. situation. Après, il y a la variation régionale, où si au Québec, on dit le char pour la voiture ou le bicycle pour le vélo, ça, il faut un peu l'apprendre. On l'a pas à sa disposition comme la variation de registre. Et on était parti un peu sans a priori, c'est-à-dire que certains de nos auteurs n'étaient pas persuadés que c'était la même grammaire, par exemple, que c'était la même grammaire à l'écrit et à l'oral, que c'était la même grammaire au Québec et en France. Et je crois que le résultat de l'ouvrage, c'est que avec un certain nombre de variations qu'on note, on fait entrer tout dans ce grand système. Il y a un seul grand système qui est assez souple, parce que même en se limitant au français le plus standard ou le plus central, on a souvent plusieurs options, comme on a plusieurs options pour écrire, clé avec ou sans F, anana, ananas, plusieurs prononciations, mais on peut dire Paul ou Marie viendra, viendront. Voilà, souvent on a plusieurs options. Donc c'est un système qui est assez plastique, comme le cerveau humain, qui peut permettre plusieurs options, et où il y a quand même beaucoup plus de similarités que de différences.
Tout ça résumé à peu près 2600 pages, je ne sais pas si le mot résumé est absolument celui qui convient. Alors on va faire quelques exercices et essayer de comprendre comment vous avez conçu dans le détail ce monument, mais chantons d'abord avec Tilbe et Sylvain Dutu, ici ou là-bas.
Tout là-bas, tu voudrais y aller. Tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas, il paraît. Car ici, car ici, car ici, le temps presse. Car ici, tu n'as même plus d'adresse. Tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas, pas de canon. Tout là-bas, le temps file au gré des saisons. Car ici, le ciel menace. Car ici, tu n'as même plus ta place. Si tu pars ce soir, je croiserai les doigts pour toi. Si tu pars ce soir, on se croisera peut-être ici ou là. Là-bas et t'entends des mots. Y'a des voix là-bas qui ne veulent pas trop. Mais ici, tu peux pas rester. Car ici, nos vies sont passées. Y'a des voix, le départ est proche. Y'a des voix, et l'encre se décroche. Et ici, tant de souvenirs. Juste ici, que tu laisses mourir. Si tu pars ce soir, je croiserai les doigts pour toi. Si tu pars ce soir, on se croisera peut-être ici ou là.
Et Sylvain Dutu sur RFI, sous l'œil attentif de Anne Abeillé et d'Adiel Godard, qui ont coordonné la grande grammaire du français. Alors, que dit une linguiste sur cette chanson, si on doit juste s'exprimer d'un simple point de vue grammatical ? C'est quoi la formule « ici ou là-bas » Anne Abeillé ?
C'est une disjonction avec « où » et ça met en cause deux expressions de lieu qui appartiennent à ce qu'on appelle la déixis, donc la façon dont les mots renvoient directement à un élément de la situation. Donc la personne qui dit « ici » ne désigne pas le même endroit que si moi je dis « ici » et on peut s'appeler au téléphone et chacun dit « ah oui, ici il fait beau » et l'autre dit « ici il pleut ». Donc il y a une plasticité de ces éléments, c'est un peu comme « je » et « tu » qui s'échangent facilement suivant qui parle et d'où il parle. Alors, on a tout un développement. C'est Frédéric Landragin qui signe ce développement sur ici et là dans notre grammaire. Donc ici, c'est le lieu où se situe le locuteur. Et là, c'est assez vague. Là-bas, c'est tout ce qui est extérieur. Donc ça peut être déjà la pièce à côté ou ça peut être beaucoup plus loin. Ça peut être un autre pays. Aux Antilles, on dit là-bas pour dire l'hexagone.
Donc on peut faire grammaire avec tout.
Ah oui,
une
oui.
Une simple chanson permet d'avoir une conversation pratiquement sans fin sur la grammaire.
Ce sont des mots très riches, et d'autant plus que là, parce qu'on pose ici et là, mais ici est purement spatial, alors que là est à la fois spatial et temporel, parce qu'on peut dire « et alors là, il m'a dit ça ». Donc là, vraiment plusieurs emplois, et ça fait partie de ces mots grammaticaux qui méritent des pages et des pages. Et c'est là où on a une importance donnée au sens qui est parce qu'il ne se pose pas de problème d'orthographe, à part l'accent sur le « là », mais on a une importance donnée au sens que n'ont pas souvent les autres grammaires.
Alors, la langue évolue beaucoup ces dernières années. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, si votre grammaire ne s'intéresse qu'au français depuis 1950. Alors, elle évolue sous l'influence du cinéma, de la musique, des réseaux sociaux, de la mondialisation, pour aller vite. Certains pensent qu'elle s'abîme ou que le niveau baisse, comme disent certains profs. Vous en pensez quoi, Daniel Godard ?
Oh, je ne vois pas pourquoi on dirait que le niveau baisse. Ça, c'est un fantasme. On a toujours eu de la variation dans la langue, de toute façon. Et il me semble que les gens s'expriment très bien. Moi, quand j'entends les gens dans la rue, je trouve qu'ils s'expriment bien.
Même quand il y a des anglicismes.
Ah, les anglicismes, je ne peux pas dire que j'adore ça. Il y a des milieux, malheureusement, où on en a un petit peu trop. Mais la langue, n'importe quelle langue, a toujours emprunté. Les emprunts, ça fait vraiment partie de l'évolution de la langue. J'aimerais mieux qu'il n'y ait pas trop d'anglicisme, mais j'en fais pas une maladie.
Alors, il y a un autre débat aussi, c'est la question de l'écriture inclusive dans les évolutions de la langue. Anna Beyer, que doit penser un grammairien, un linguiste de l'écriture inclusive ? Est-ce qu'elle est conforme ?
Conforme à quoi ?
À la grammaire, à la morphologie ou à la syntaxe ?
Alors, il y a plusieurs aspects qu'il faut distinguer, je crois. Donc, il y a cette graphie compacte où on met une lettre entre parenthèses, comme de vive voix, où vous mettez le S entre parenthèses.
Ça,
c'est déjà... Enfin, on date ce genre de S entre parenthèses à De Gaulle, 1945, donc ce n'est pas très récent. Et on l'utilise, effectivement, on l'a utilisé pour mettre le E entre parenthèses. C'est, par exemple, chez Pérec ou chez Hervé Guibert, donc c'est déjà dans la littérature. Et puis, cette mise entre parenthèses du féminin, est devenu un peu problématique et d'autres types de graphies sont essayés. Je pense qu'il faut resituer le débat dans un cadre plus général, parce que ça ne concerne pas seulement le français, ça concerne beaucoup de langues européennes. Les langues qui ont un genre grammatical ont tendance, pour désigner des humains, à faire coïncider le genre des mots qui les désignent avec le genre social de la personne. Donc, à cet égard, utiliser une forme masculine pour désigner des personnes féminines, c'est ressenti comme insatisfaisant, d'où la féminisation des noms de métiers, qui est très récente. En réalité, en France, ça a commencé dans les années 70 au Québec, mais voilà, le mot, c'était le maire, c'était l'avocat, c'était le professeur, ça fait pas très longtemps, malgré c'était le décret Fabius 86, le décret Jospin 97, mais c'est seulement depuis 2007, des collègues ont daté ça très précisément, qu'au Parlement français, on dit Madame la ministre. Avant, on disait Madame le ministre. Donc cette féminisation prend plusieurs formes, par l'article, le ou la, ou par la finale du nom. Et ce n'est que depuis 2019 que l'Académie française approuve cette féminisation. Et elle tend à se répandre dans les journaux. Donc, c'est quelque chose de récent.
Mais ça, ce n'est pas tout à fait l'écriture inclusive.
Ben, ça en fait partie. C'est l'usage inclusif. C'est la plus grande visibilité du féminin dans la langue.
Donc, elle ne vous heurte pas, en tout cas, cette écriture, visiblement.
Si vous voulez, on essaye de comprendre pourquoi il y a ces nouvelles formes. Et c'est une logique qui est une logique qu'on retrouve dans beaucoup de langues, parce que il ne faut pas dire, comme certains, que le genre grammatical des mots est arbitraire. Il ne l'est pas concernant les noms humains.
Alors, dans ces 2628 pages de cette grande grammaire du français, vous donnez beaucoup d'exemples. Il y en a plus de 30 000 avec des citations d'écrivains, mais aussi des répliques de films. Et comment résister à la guerre des boutons dans sa version de 62 par Yves Robert.
Oh, le plus gros mot qui commence par C, qu'est-ce que c'est ?
Je connais pas de gros mots, moi.
Ah ben la vie, si j'y reçus, j'aurais pas venu.
Mais vous, vous viendrez voir la guerre des boutons.
Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Comment cette énorme faute de français peut apparaître dans votre grande grammaire du français, Daniel Godard?
On se demande bien sûr quelles sont les formes qui peuvent suivre le si conditionnel. Et il y a quelque chose qui se passe en français, mais qui ne se passe pas forcément dans les autres langues romanes, c'est qu'on n'admet pas le conditionnel, la forme du verbe conditionnel, après le si conditionnel. Mais c'est une interdiction, enfin une impossibilité, qui n'est pas une impossibilité d'ailleurs, comme on vient de l'entendre, qui n'est pas très bien expliquée en réalité.
Finalement, ce n'est pas aussi grosse faute que ça.
Parce que les autres subordonnées circonstancielles, par exemple, peuvent être suivies du subjonctif, pourvu qu'ils viennent, à condition qu'ils viennent. Donc c'est un peu une fossilisation, une spécialisation, un cas particulier que ceci soit suivi de l'indicatif et un indicatif sans conditionnel. Parce que quand on fait une hypothèse, justement, ce n'est pas certain. Donc la plupart du temps, ce serait justifié qu'il y ait le subjonctif et dans d'autres langues, on l'a. Et donc là, c'est un blocage un peu particulier. Mais si le « si » exprime une opposition, s'il est vrai que, il n'est pas vrai que, là, on a le conditionnel. On a un exemple du journal Libération, par exemple. Et le « si » qui introduit une subordonnée interrogative aussi. Je me demande s'il ne serait pas temps de... Donc, en fait, on trouve des « si » plus conditionnels. Donc, il y a une certaine logique à ce que certains, en dépit de la norme, utilisent « si » plus le conditionnel.
Alors, dans cette grande grammaire du français, il y a donc énormément d'exemples, je l'ai dit. Il y a la version papier, bien évidemment, mais il y a aussi une plateforme numérique que l'on peut consulter depuis l'étranger et qui a justement l'avantage de faire entendre des extraits sonores. Je crois qu'il y a plus de 2000 sons tirés de radios comme RFI, mais aussi d'autres médias. Et il y a par exemple 2-3 cas de liaisons bonnes ou mauvaises que l'on peut entendre.
L'enfant et l'homme, les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes.
Les sociétés et les personnes sont soit en France, soit en Cambodge, soit en Chine.
En Dordogne, soit en Nouvelle-Aquitaine.
Un bon environnement.
En plein air.
Un divin enfant.
Et après, ils sont allés dans la région de Corrèze.
Jamais il ne va à Paris. Jamais il ne va à Paris.
Quand je travaille chez une dame, auparavant je travaille... chez un patron.
J'étais capable d'assumer une profession sans être non plus totalement je m'en foutis.
Oui, dans toutes les familles, mon arrière-grand-mère est amérindienne.
Cet ami, mon ami, ma copine.
Six amis.
C'est vrai, après tout, pourquoi dit-on l'enfant et l'homme sans liaison et en revanche, on parle du divin enfant. C'est tout ce que l'on comprend dans votre grammaire, avec ce paradoxe que finalement, à trop comprendre, on autorise tout et que la norme n'est qu'une norme temporaire, finalement, dans la langue.
Je voulais juste revenir sur le fait que c'est la première grammaire parlante, donc c'est une grammaire effectivement qui vous fait entendre les voix de la francophonie et la musique des phrases, puisque une phrase suivant sa mélodie, tu viens, n'a pas le même sens, donc c'est très important. Et effectivement, on explique les différents cas de liaison et les formes de la liaison. Souvent, pour l'adjectif, c'est la même forme masculin liaison, divin divine, que féminin divine. Et on explique aussi des cas de fusion. Par exemple, donne-moi-en, qu'est-ce que c'est que ce Z? Ça ressemble à une liaison, mais il n'est pas écrit. Mais on a besoin de faire un seul mot. Et c'est quelque chose d'assez courant, en fait.
Donc, il y a des compréhensions, des recommandations, mais jamais de punition à lire cette grande grammaire du français. Vous savez que dans Deux Vives Voix, avec un S entre parenthèses, nous aimons les mots et toutes les semaines, nous en faisons la preuve avec Lucie Boutelou.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal.
On ne cherche pas aujourd'hui vraiment à qui la faute, mais il peut y en avoir pas mal.
Il y a les fautes de grammaire, mais il y a aussi les fautes d'orthographe. Et c'est précisément là où le bât blesse. Là où le bât blesse, donc. Mais de quel bât s'agit-il exactement dans cette expression? Et savez-vous l'orthographier correctement? Heureusement, Jean Pruvot est là pour nous aider à garder la tête haute et à rectifier la faute. Les ados, eux, sont tombés dans le panneau.
Quelque chose qui te blesse en bas.
Peut-être parce que par terre, ça fait mal.
Ah non, je pense que c'est quand on te fait un mauvais coup.
Peut-être aussi des chaussures. Et donc, au bout d'un moment, t'as mal au pied à force de marcher. Donc, tu dis le bas blesse.
Moi, ça me fait penser à un vêtement bah, qui n'est pas agréable, qu'on porte et qui est gras, tout comme ça. Donc, on dit, oh, ma robe, et bah le bas blesse.
Je pense que ça veut dire que c'est la fin de l'histoire, je sais pas, un truc comme ça.
Alors Jean, là encore, compliqué pour les enfants de comprendre l'origine de cette expression. Là où le bât blesse, de quel bât s'agit-il?
Effectivement, quand on l'entend, les enfants ne peuvent pas savoir l'orthographe du mot. C'est logique de penser au bât, B-A-S. En fait, ça s'écrit B-A, accent circonflexe, T. Hein, et ça vient à partir du XIIIe siècle du mot baste, bastum. C'est ce qui porte quelque chose. Bastare voulait dire... porté. Et alors, c'était l'appareil de bois, ce qui explique que ça peut être douloureux sur le dos d'un animal, donc sur le dos d'une bête de somme, qui portait une somme, quelque chose de lourd, et pour fixer la charge. Alors, on parlait d'un bât de cheval, d'un bât de mulet. Alors, c'est pas les bâts qu'on leur met aux jambes, bien sûr, c'est ce qu'on leur met sur le dos. On rembourrait un bât le plus possible, et il y avait des bâts mal sanglé, c'est un exemple de l'Académie. Un cheval de bât, c'était d'ailleurs synonyme de quelqu'un de pas très fin. Parce qu'évidemment, le cheval de course, lui, on le soigne. Le cheval de bât, faut qu'il porte. C'est parfois une jument, d'ailleurs, aussi. Hein. Et puis, bon, on se doute bien que les blessures qui sont faites sous le bât, ben, ne se voient pas. Elles blessent, mais on ne les voit pas. L'animal en souffre, et c'est quand on enlève le bât qu'on voit effectivement que c'est quelque chose qui a été douloureux.
Oui, alors aujourd'hui, il n'y a plus tellement cette idée de dissimulation. Quand on dit « c'est là où le bât blesse », c'est là le problème, en fait.
Alors ça, c'est une excellente remarque, parce que dans le fond, effectivement, je n'y avais pas songé, mais on change le sens. C'est plus ce qui est caché, c'est qu'on sait que c'est caché. Alors, par exemple, chez Molière, Sganarelle qui dit « vous savez bien où le bât me fait mal. » Et là, on est déjà dans le bât qui blesse. Mmh. Expression qui va véritablement ensuite s'installer très visiblement dans notre langue.
C'est une expression qui est encore très utilisée.
Ah oui, absolument. Et qui parfois est mal orthographiée.
Une expression tellement vivante, d'ailleurs, que c'est difficile de trouver des synonymes.
Hein. Ah bah oui, c'est très difficile. C'est le point délicat, c'est le point douloureux. C'est frapper là où ça fait mal. Bon, c'est vrai. C'est connaître le point faible.
Ben, le oui. point faible, le point sensible. Ben,
oui. Alors, il y a une métaphore très souvent utilisée, et j'en souffre à peu près une fois tous les deux mois, c'est quand la chaussure vous serre. Alors, c'est l'expression en allemand, savoir où la chaussure serre. C'est très proche, ça. On aurait pu l'avoir, cette expression.
Mais c'est avoir un caillou dans la chaussure aussi.
Oui, aussi, c'est ça. Et donc, cette idée
c'est de... C'est une autre expression.
Voilà. Alors, il y en a une autre encore, c'est savoir où le cal, ça c'est en portugais, où le cal, vous savez, c'est cette partie un peu dure dans la main ou au pied. Et la corne qui
devient douloureuse.
Voilà. Alors, c'est savoir où le cal fait mal. Il y a aussi connaître, alors là, c'est pas vertueux, le talon d'Achille. Le talon d'Achille,
oui, la faiblesse.
C'est la faiblesse.
Le point,
partie
le point
du
sensible.
Talon,
bon. Eh bien, merci Jean, point de cale ni de bas entre nous. Merci d'être venu dans La Puce à l'oreille. Je rappelle aux auditeurs que vous avez récemment fait paraître Les mots de l'école et que cet ouvrage est paru chez Honoré Champion. Merci beaucoup Jean et à très bientôt.
Merci beaucoup Lucie.
Merci à tous les deux. Le bât blesse, c'est ce que vous appelez dans votre grande grammaire du français, Anna Beyer, une expression verbale figée.
Donc c'est Béatrice Lamirois, une collègue belge, qui a étudié 50 000 expressions verbales figées, comme prendre le pli, casser la croûte. Donc c'est plutôt rare que ce soit le sujet qui soit figé. Souvent, c'est plutôt le nom, le complément qui est figé. Et on cite l'expression « c'est là que le bas blesse » ou « c'est là
et
où
donc,
le bas blesse ».
Et donc, je renvoie à la grande grammaire du français qui est éditée chez Actes Sud en coédition avec l'Imprimerie Nationale. Merci beaucoup à toutes les deux, Anna Bélier et Daniel Godard. De vive voix, Pascal Paradou, Cécile Labolo, Guillaume Ploca, à demain.